Bonjour Anne Berest.
Bonjour.
Vous êtes romancière, je vais citer La fille de son père, votre premier roman très remarqué, ou Gabriel, coécrit avec votre sœur Claire. Votre actualité, vous êtes la créatrice de la série Mytho sur Arte. La saison 2 démarre ce soir à 21h et quand on veut évidemment sur arte.tv, série diffusée également sur Netflix. Alors Mytho avait obtenu le prix du public et le prix d'interprétation féminine pour Marina Hond, c'était au festival Série Mania en 2019. Alors Mytho dans le sens courant, ça veut dire mensonge, mais on pense aussi à mythomanie, à mythologie. Et pour comprendre la saison 2, il faut revenir sur la saison 1. Vous pouvez le dire en quelques mots, ce qu'était Mytho, quel était le flux qui sous-tendait la série.
La saison 1, elle était très autour de la notion de charge mentale de la femme. C'était l'histoire de cette mère de famille un peu au bout du rouleau, trois enfants dont deux ados qui ne travaillent pas vraiment à l'école, un mari qui ne fait rien à la maison et qui la trompe avec la pharmacienne, enfin bon. Et c'est elle qui faisait bouillir la marmite et qui tenait tout ça à bout de bras. Et en fait, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus et un jour elle doit aller faire passer une mammographie. On lui dit que tout va bien, que son sein est parfait, et en rentrant chez elle, sans l'avoir prémédité, elle dit non, le rendez-vous s'est mal passé, j'ai une tumeur. Et là, tout le monde devient absolument charmant avec elle, son mari, mais retombe amoureux d'elle, sincèrement. Il la demande en mariage. Les enfants se mettent à être vraiment très très bons à l'école. Et voilà, elle s'englue dans ce mensonge qui en fait rend sa vie merveilleuse.
Mais ça va beaucoup plus loin, puisqu'elle s'y englue, mais elle s'en défait. Et tout d'un coup, on découvre le poteau rose.
Et oui, et quand... Ça c'est la fin de la saison 1.
Ouais, mais je suis obligée de la raconter pour qu'on comprenne la saison 2.
Oui.
Parce que si je ne spoil pas la 1, on ne pige pas la 2.
C'est vrai,
je suis désolée.
Mais ceux qui n'ont pas vu la saison 1 peuvent la regarder sur le site de Arte.
Bien sûr.
Et donc on est obligé un petit peu de divulgâcher, de dire que toute la famille va être au courant. Et quand on arrive en début de saison 2, on retrouve notre famille Lambert qui est complètement éclatée par ce mensonge. Les uns, le couple ne se parle plus, les enfants sont divisés.
Elle est même plus dans la maison.
Elle est même plus dans la maison, d'ailleurs.
Le père ressent plus à rien, Mathieu Demi ne ressent plus à rien, il ne se lave pas, il vit dans un truc. Il s'est construit, il ne peut même plus dormir dans la chambre à coucher commune, donc il s'est construit une sorte de niche tipi au milieu du salon.
Exactement,
avec
comme
des couvertures
enfant.
Autour, enfin comme un enfant crasse-pouette. Il prend pas de douche, il sent mauvais.
La mère de famille n'est plus là pour faire le ménage. Heureusement, il y a les voisines gentilles qui viennent un peu faire du repassage.
Il y a une atmosphère très particulière du coup dans la famille depuis que la mère est partie. On va entendre un extrait, c'est un dîner. À table se trouve donc Patrick, Mathieu Demi, Sandrine qui est amoureuse de Patrick. Elle aide financièrement la famille. Elle est un peu collante, il y a les enfants. Et le petit copain de Sam, parce qu'il a un petit copain, Sam c'est un garçon, Renan, élève d'Hippocagne, qui a quelques prétentions littéraires. On écoute.
Tes parents, ils font quoi?
Ah putain, relou.
Relou, tu permets, je m'intéresse au petit copain de Sam.
Ma mère est juriste. Et mon père, c'est le directeur du magasin de bricolage qui est juste à la sortie de la ville.
Ah oui, je vois très bien qu'il est juste à côté de la salle de sport.
Ouais, c'est ça.
Ah oui, mais tu sais, je connais bien ton père, il vient souvent au club.
Ah d'accord.
C'est marrant.
Alors, Sandrine, si tu peux éviter de dire au père de Renan qu'il est venu ici ce soir.
Oui.
Merci. Moi, je comprends pas, c'est quoi le problème?
Je suis pas quelqu'un de très fréquentable. Ses parents savent pas qu'il est ici, ils auraient jamais accepté.
Attends. Vous avez menti à ses parents?
Non, pas du tout. C'est juste que...
Putain, mais je suis pas d'accord! Je suis pas d'accord. Le mensonge ne fait plus partie de notre famille, c'est compris?
Excuse-moi.
Merci Sandrine, ta mère cassait l'ambiance.
Donc, plus de mensonges dans cette famille. Et s'il n'est pas très fréquentable, ce qu'on entend au son mais qu'on ne voit pas à l'image, c'est qu'il est un peu efféminé, ce garçon. Il a les ongles faits et il est maquillé.
Exactement.
Et alors, c'est à la fois familier et surréaliste. Il y a du Lars von Trier, il y a les dossiers qui sortent un par un comme ça.
C'est vrai. Et puis, il y a un petit peu... en fait, dans l'imaginaire, il y a beaucoup de choses. Il y a un côté Desperate Housewives, il y a un côté... un peu de ces séries américaines qu'on
aime.
Vous
parlez de Desperate Housewives, ils vivent, c'est pas en ville, c'est dans une banlieue pavillonnaire qui est la France sans être la France tout en étant la France.
Vous savez, oui, c'est-à-dire que c'est...
Je me suis dit, où est-ce qu'ils ont trouvé ces endroits? Par exemple, le motel dans lequel elles se trouvent, on entend les avions passer au-dessus, on se croirait dans un film de Wenders.
Et oui, c'est parce que nous, on a, avec Fabrice Gobert, le réalisateur, on a vraiment ce goût-là d'un cinéma qui est à la fois d'un ailleurs, de choses étranges, un peu bizarres, un peu la Tim Burton aussi, d'une certaine façon.
Il y a quelque chose qui n'était pas dans cet extrait. Et cet extrait, il fallait choisir, mais il n'est pas tout à fait représentatif. Il manque une dimension, parce que ce qui est remarquable dans Mytho, c'est que parfois il y a du pathos, mais vous jouez sur plusieurs tableaux. Parfois on est dans le drame et parfois on est dans la comédie.
Exactement.
Ça rigole beaucoup. Là, on n'a pas mis un extrait où on rigole, mais parfois ça rigole beaucoup.
C'est ce qu'on appelle en série ce mot valise qui est la dramédie.
Ah oui ?
Oui. Et c'est un genre, le drame et la comédie. Et moi, c'est un genre que j'aime parce que je trouve que c'est celui qui ressemble à la vie. Moi, dans la vie, je peux passer du rire aux larmes. Moi, dans ma journée, le matin, il peut m'arriver une chose, apprendre une très mauvaise nouvelle. Et l'après-midi, je peux éclater de rire sur quelque chose avec mes enfants. Je trouve que la dramédie, c'est ce qui ressemble le plus à ce que nous vivons.
Vous parlez de vos enfants.
Oui.
C'est à la naissance de votre premier enfant, si je suis bien informée, que vous avez eu l'idée de Mytho.
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... voilà, comme j'ai eu mon premier enfant, et puis ma mère a eu un cancer du sein, et puis tout ça se mélangeait, et puis je me suis rendu compte que je m'étais jamais autant occupée de ma mère et d'être présente que quand elle avait eu cette maladie. Et tout ça, voilà, dans ma tête, quand on est venu me demander est-ce que t'aurais un sujet de série, et ben j'ai dit oui, ça sera l'histoire de Elvira qui ment pour être aimée par les siens.
Mais évidemment, la première saison se focalisait sur le personnage d'Elvira incarnée par Marina Hans. La deuxième saison est plus chorale. Tous les personnages sont, si j'ose dire, disséqués. Qu'est-ce que ça donne, y compris les voisins et les voisines? Vous restez avec nous, Anne Berès, Culture Média continue.
L'émission référence d'elle.
En compagnie d'Anne Berest, elle est romancière, mais elle est aussi et surtout, ce qui nous intéresse ce matin, la créatrice et la dialoguiste de la série Mytho, dont les saisons 1 et 2 sont déjà disponibles jusqu'au 27 sur Arte.tv. Et on peut voir les épisodes de Mytho sur Arte. C'est le jeudi soir, donc le mardi soir, donc ce soir à 21h. Parfois, on se demande où est-ce que vous allez chercher tout ça dans les relations de voisinage, parce que y a des méchants. Il y a des drôles de méchants qui paraissent gentils. Je vais essayer de résumer pour qu'on comprenne la scène. Il y a les deux filles de la famille, donc cette famille éclatée à cause du mensonge de la maman, Carole et Virginie, qui trouvent un semblant de refuge et de réconfort auprès de Madame Ménard. C'est une sorte de dame patronesse qui a une sorte de secte aux méthodes de purification, qu'on va dire douteuses. Il y a une scène très impressionnante, c'est un groupe de paroles. Ils sont une vingtaine, c'est le soir, ils sont debout autour d'un panier en osier, panier dans lequel ils vont chercher des phrases qu'ils doivent dire publiquement, qui sont des autocritiques. On pense au procès stalinien, par exemple. J'ai l'impression que tout le monde me veut du mal. Là, on va entendre un extrait. C'est Carole, la fille aînée, qui tombe sur une phrase qui la déstabilise.
J'ai une conscience coupable. Je me sens seule dans une détresse. Tu peux nous dire quelque chose? Ça correspond à ton état d'esprit? Tu peux nous raconter? Quelqu'un veut le faire à la place de Carole?
Carole se sent responsable du fait qu'un ami proche soit tombé d'un toit. Il est paraplégique aujourd'hui.
Mais je suis responsable.
Carole est peut-être en colère contre sa mère à cause de son mensonge.
N'importe quoi. C'est pas du tout ça. C'est vraiment de la merde, votre truc.
D'où vient cette pratique, Anne Berest? Où est-ce que vous êtes allé chercher ce genre de groupe de paroles? Ça fait peur.
Oui, ça fait peur. Moi, pour cette saison, j'avais vraiment envie de travailler sur la question de l'emprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la mère de famille n'est plus là, chaque personnage est sous le joug d'une emprise. Alors, il y a l'emprise amoureuse et ici, il y a l'emprise sectaire. Donc, je vais vous dire une chose, c'est que toute cette histoire de secte n'est pas le fruit de mon imagination. J'ai travaillé sur des vraies sectes, des sectes qui existent en France. Je suis allée lire sur leurs méthodes et je les ai ici réécrites. On pense que c'est mon imagination, mais pas du tout. Les jeux qu'ils font, que les couples sont obligés de faire entre eux, la façon dont ils se touchent, etc., c'est très précis. Et ça vient d'une étude que j'ai faite sur des sectes.
Cette voisine sectaire les oblige un des couples, je ne vais pas tout raconter, à faire chambre à part. Vous dites qu'avec Fabrice Gobert, le réalisateur, vous êtes beaucoup posé la question de la vraisemblance.
Oui. Quand on raconte des histoires, comme on sait qu'on est sur un peu de l'étrange, quand on écrivait et qu'on cherchait nos histoires, on se demandait est-ce que ça nous est déjà arrivé ou est-ce que c'est arrivé à un de nos proches? Parce que l'étrangeté, elle est dans la vie. Dans la vraie vie. Donc nous, c'est ça qu'on va chercher. On va chercher toutes les bizarreries de notre monde et on les met dans la série. Mais c'est pour ça que je parle de vraisemblance, parce que voilà, cette secte, elle peut sembler complètement folle et en fait, tout est vrai.
Quelle est la différence entre l'écriture d'une saison 1 et d'une saison 2?
Alors c'est très différent. D'abord sur le temps, la saison 1, j'ai eu 3 ans pour l'écrire. La saison 2, j'ai eu 1 an. On voulait vraiment qu'il n'y ait qu'un an entre les deux saisons. Et puis il y a eu le Covid, mais bon. Donc il y a un rapport au temps. Et puis aussi, la saison 1, vous ne savez pas pour qui vous écrivez. Vous avez des personnages dans votre tête. Et puis en saison 2, vous écrivez pour des acteurs. Et alors ça, j'ai adoré ça. J'ai adoré avoir Marina Hans en tête et lui écrire des scènes qui allaient la porter, et même Mathieu Demy. Quand j'ai vu la façon dont il pouvait incarner Patrick, la drôlerie, la façon dont il l'incarnait, dont il s'investissait à l'intérieur, là pour la saison 2, on s'est donné à cœur joie pour lui.
Pendant le dîner d'avant Noël, il y a cette réplique, vous parlez de lecture, il y a un des jeunes convives qui dit « Je pensais qu'il fallait être mort pour être écrivain, en tout cas très vieux. »
Oui.
Vous en pensez quoi vous-même?
Mais ça, c'est des répliques que je pique autour de moi quand j'entends les ados qui parlent et que j'adore.
Mais vous pensez qu'il faut être vieux pour être écrivain? Je pose la question parce que vous n'êtes pas vieille et que vous êtes écrivain.
Mais moi, quand j'étais petite, que j'avais 8-9 ans, c'est ce que je pensais.
Oui.
Je pensais qu'il fallait être mort pour être écrivain.
Bien sûr, et qu'il y a un classique Larousse.
Mais oui. Et donc, quand j'ai découvert que non, on pouvait être vivant, et moi, c'est une des choses où je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi?
Hasard de l'actualité, vous êtes romancière, vous publiez cette rentrée un roman qui est en même temps un récit, ça s'appelle La carte postale, c'est chez Grasset. La carte postale, elle a vraiment existé. On la voit, vous nous regardez sur Europe1.fr, vous verrez. La carte postale, voici le recto et voici le verso, à moins que ce soit l'inverse. Vous la recevez quand vous avez 22, 23 ou 24 ans. Il y a au verso une photo de l'Opéra de Paris. Au recto, 4 prénoms, Ephraim, Emma, Noémie, Jacques, qui sont ces 4 prénoms?
Eh bien, ce sont les grands-parents de ma mère, son oncle et sa tante. Il faut préciser donc que cette carte postale, quand on la reçoit, elle est anonyme. L'auteur n'a pas voulu se manifester, n'a pas voulu qu'on sache que c'était lui qui envoyait cette carte postale. Et ces 4 prénoms, on les connaît, puisque donc, c'est la famille de ma mère, mais ma mère ne les a pas connus, elle, puisqu'ils sont morts à Auschwitz en 42. Et donc, moi, tout mon livre, c'est de faire une enquête, vraiment comme dans un polar, mais c'est une enquête vraie, où je suis le détective et ma mère est l'autre détective. Et nous allons toutes les deux chercher qui est l'auteur de la carte postale anonyme.
Il y a un point commun entre le roman et la série, c'est que vous creusez dans les secrets de famille.
Ah oui, ça c'est toute mon œuvre.
Hein ? Pourquoi ça vous fascine à ce point ?
Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est le point commun de tous mes livres, de tout ce que j'écris. C'est ce qui me... Peut-être que c'est ma matière d'écrivain. Peut-être que je suis devenue autrice à cause ou en raison des secrets de famille.
Ouais, j'ai même lu une critique qui disait « il écrit roman, mais en fait c'est un récit, ce n'est pas tout à fait un roman. » Je précise ça parce que vous êtes dans la liste du Goncourt. Vous êtes aussi, il y a des polémiques en ce moment, vous êtes aussi dans la liste du prix France Culture Lobs, du prix du roman Fnac. C'est un handicap ou c'est une chance d'être partout ?
Moi je pense que d'abord c'est merveilleux. À chaque fois qu'on est sélectionné sur une liste, on est très heureux. Ça vous fait votre journée, alors c'est déjà, c'est très bien. Une journée après l'autre.
Il paraît qu'Arte, avant même la diffusion et la livraison de la saison 1, vous avez commandé une saison 2.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y aura une saison 3 de Mytho?
Elle est en cours, elle est en cours d'écriture, donc... Oui.
Voilà, on verra ce que c'est. Merci beaucoup, Anne Berès.
Merci à vous.
Je rappelle, donc la série Mytho, faut pas que je me trompe, la saison 2 a déjà démarré, c'est le jeudi, et c'est quand on veut sur arte.tv. Puis il y a aussi ce roman qui est en même temps un récit, ça s'appelle La carte postale, et c'est chez Grasset. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Merci.